Israël, sa sœur et à Charles. J'ai réduit totalement cette
équipe. Moi, c'est une équipe de combattants au Casanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux équipes de vie précédente, trouver une solution par rapport à ça.
Bonjour et bon début de semaine en compagnie des Radio Capi qui vous propose parole aux auditeurs. Dans une note circulaire du 30 juillet dernier, à l'attention de tous les secrétaires généraux de l'administration publique, le ministre de la fonction publique a annoncé les recrutements internes des agents qui vont occuper dans un bref délai des postes de cadre dans l'administration. Selon l'arrêté ministériel 013/2015, cette annonce rentre dans le cadre de la mise en œuvre dans toutes les administrations centrales des ministères, institutions et services publics des structures répondant aux standards internationaux. Certains observateurs estiment que cette décision risque de préjudicier les agents et cadres en poste EVA et occasionner le clientélisme. Et notre opinion pense plutôt que c'est une bonne voie pour moderniser l'administration publique de la RDC. Qu'en pensez-vous? 081-890-6315, c'est le numéro d'appel pour intervenir en direct dans ces magazines mis en onde par Guman Zangou. Julie Feza assure la réalisation et Pierrot Yelamiji vous le présente sous la supervision de Léonard Moulamba. Fidèles auditeurs, bienvenue à tous.
Écho d'économie. Sur Radio Okapi, la vie économique du Congo a une vitrine. Écho d'économie. 18h15 heure de Kinshasa, un magazine qui prend la température. Les marchés, la vie des entreprises, le monde rural, des questions se posent, nous y répondons clairement. Les bonnes initiatives, une nouvelle idée, reportage sur le Congo qui bouge. 18h15, Écho d'économie, une émission de référence qui parle à tout le monde.
Parole aux auditeurs, Pierrot et Amé.
Et pour en parler justement, nous avons actuellement deux invités dans ce studio, M. Toudjimou Madjenga, secrétaire général à la fonction publique, M. Jean-Serge Bikoro, coordinateur de la cellule de mise en œuvre de la réforme de l'administration publique. Vous pouvez également intervenir dans cette émission en nous déposant votre commentaire sur la page Facebook de Parole aux auditeurs. Nous commençons avec vous, M. Toudjimou Madjenga, secrétaire général à la fonction publique. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation des Radio Capi.
Merci, bonjour.
Jean-Pierre Bicor, bonjour.
Bonjour, M. Pierrot.
Voilà, et nous parlons de la réforme. On peut dire que ces mesures entrent dans le cadre de la réforme pour vous, Jean-Pierre Bicor.
Effectivement, il s'agit là de la mise en œuvre des décisions dans le cadre des options levées pour la réforme de l'administration publique, notamment par le comité de pilotage de la modernisation de l'administration publique. Et donc là, il s'agit en effet de toucher un peu sur les structures qui organisent nos administrations pour les rendre encore plus efficaces et capables de produire les résultats escomptés, notamment en leur dotant de nouvelles directions nécessaires pour améliorer la qualité de service et aussi la qualité de l'offre des services publics aux usagers.
Et secrétaire général Toudjimou Madjenga, vous qui êtes dans ce terrain, on peut dire un peu technique, expliquez-nous un peu, en gros mots, en quoi consistent ces nouvelles mesures prises par le ministère. D'abord, ça affirme d'abord des faiblesses observées et pourquoi avoir pris ces décisions de manière un peu plus technique.
Bon, vous avez si bien parlé, nous sommes à l'étape de la mise en œuvre. Est-ce qu'il y a, une réforme et qui entre dans le cadre du plan d'action du gouvernement? Pour parler précisément de cette structure standard à compétence horizontale commune à toutes les administrations, vous vous souviendrez, ou l'opinion se souviendra, qu'il y a eu dans le cadre de la vulgarisation de la réforme un certain nombre d'axes qui avaient été retenus, notamment l'axe de rationalisation. En ce qui concerne ce axe, il y a à rationaliser les missions, les structures, donc les structures administratives et des ministères, ainsi que les effectifs et donc les emplois. C'est, disons, cette tâche au début a connu l'audit du cabinet KPMG, et c'est un axe qui est financé par la Banque mondiale. Il y a le projet de rajeunissement de l'administration publique et le projet Profit Congo qui appuie cette action qui sort de la réforme, notamment des finances publiques, et aussi de la réforme de la gestion des ressources humaines. En ce qui concerne la réforme des finances publiques, il y a la loi, la nouvelle loi relative aux finances, aux finances publiques en République démocratique du Congo, qui, en fait, a eu comme, entre autres décisions, la création d'une direction administrative et financière au sein de chaque ministère. Mm-hmm. Et pourquoi ? Parce que dans cette réforme, le ministre qui est actuellement gestionnaire des crédits devient ordonnateur des crédits. Donc c'est que la gestion, l'engagement des dépenses qui se faisait au niveau du ministre qui est engagé, va se faire maintenant au niveau de l'administration et principalement au niveau de la direction administrative et financière. Mmh. Et dans le cadre du programme du gouvernement, vous savez qu'il y a eu les objectifs du millénaire pour le développement qu'on devait normalement atteindre en 2013, il était prévu qu'en Afrique, qu'on puisse créer un réseau de gestionnaires des ressources humaines. Mais le gouvernement, après le séminaire de Songo, a décidé, dans le cadre de la gestion axée sur les résultats, de créer au sein de chaque ministère une direction de ressources humaines pour qu'en fait on puisse abandonner cette pratique de l'administration du personnel à une gestion rationnelle, uh-huh. et que nous avons la planification de tout le mouvement. Et ceci cadre aussi avec la réforme du statut qui prévoit la création au sein de chaque ministère une commission administrative. Donc cette commission administrative qui va examiner toutes les questions au sein de chaque ministère va s'appuyer sur cette nouvelle direction des gestions des ressources humaines. Et il y a aussi la nouvelle direction d'études et planification où on met plus l'accent sur l'aspect prospectif du développement, donc pour le développement. Mmh. Vous savez que les fonctionnaires, généralement, ils sont dans l'administration, mais ils ne savent pas que dans leur action, ils sont impliqués dans un processus du développement. Et aussi, maintenant, la modernisation, la direction de nouvelles techniques de communication. Voilà. Et ce sont des structures qui vont fonctionner dans toutes les administrations. Mmh. Mais on ne peut plus y aller comme. Donc, d'une manière en vrai, comme en 1983. Mais on y va progressivement, on commence par les structures standards pour qu'après, on puisse donc atterrir sur les structures sectorielles, c'est-à-dire que les structures spécifiques.
Voilà, je reviens à vous, Jean-Serge Vicoro, avant d'écouter les auditeurs. Vous êtes coordonnateur de la CENI de mise en œuvre de la réforme de l'administration publique. On parle de rajeunissement, mais quand je regarde, par exemple, ici, la note circulaire, du ministre, tout comme la décision, on parle de personnes qui seront recrutées à l'interne, bien sûr, pour pouvoir à ce poste, qui doivent avoir plus ou moins 45 ans, 50 ans, c'est uniquement pour attacher l'administration de première classe, 35 ans. Mais n'est-ce pas là qu'il y a un problème? Si on veut rajeunir l'administration, comme au moment où on procède au recrutement à l'interne, il y a des gens âgés de au moins 50 ans, ils ne sont pas plus loin de la retraite. Comment alors combiner les concepts de rajeunissement de l'administration dans la réforme et les recrutements en interne des gens qui sont âgés d'au moins 50 ans?
De trois manières, monsieur le journaliste. La première manière, c'est d'évaluer ceux qui sont déjà éligibles à la retraite au regard de la loi. Donc là, quand je parle de la loi, c'est que c'est la loi, les statuts actuels en cours d'application qui fixent l'âge à 55 ans. Donc 50 ans et moins que ça par rapport à cet âge, il y a encore un parcours. Mais la même réforme prévoit déjà, et le texte est en discussion au Parlement, d'élever cet âge à 65 ans. Donc si, par bonheur, et là les députés, les honorables députés ont promis de produire le plus rapidement possible d'ici septembre le nouveau texte, et donc on aura un nouvel âge fixé à 65 ans de retraite, et donc on peut espérer que ceux-là qui sont visés par l'actuel recrutement pourront passer un bon bout de temps avant de quitter. Mais en même temps, il y a ceux-là qui ont déjà atteint l'âge, quel que soit soit l'âge de 65 ans qui pourront quitter, et le gouvernement s'organise déjà à pouvoir préparer l'intégration des jeunes par rapport au poste qui par rapport au poste à combler dans le cadre du rajeunissement. Et là, la réforme a prévu notamment le projet ENA, École nationale d'administration, qui vise les jeunes, mais le deuxième projet, c'est le programme jeunes professionnels qui est en cours. Donc, je crois que le gouvernement agit à trois temps et au même moment pour pouvoir répondre à ces besoins de rajeunissement, tout en ne perdant pas de vue que pendant qu'on s'occupe du recrutement des jeunes, il y a des agents et fonctionnaires de l'État qui sont en cours de carrière et qui doivent faire un parcours normal et qui doivent faire montre d'efficacité et d'abnégation pour pouvoir produire les résultats escomptés.
081-890-6315, c'est le numéro d'appel pour intervenir en direct.
Parole aux auditeurs.
Je sens que vous nous appelez de Vienne, vous nous avez rejoint dans cet échange, vous avez suivi ces projets par rapport à l'opérationnalisation, comme le secrétaire général venait de le dire tout à l'heure, la direction administrative et financière, la gestion rationnelle des agents et fonctionnaires, et toutes ces mesures pour arriver vraiment à avoir une administration publique qui réponde vraiment aux normes et qui rende un service à la population. Quel est votre point de vue, Franck?
Pour la parole, d'abord une information pour vos techniciens. On ne sait pas vous casser sur Internet. On a dit qu'on est en train de travailler. Nous espérons que ça va se régler dans les heures qui suivent.
Mm-hmm.
Bonjour aussi à nos invités. Je viens de suivre avec attention leur introduction. Et personnellement, je trouve que jusqu'ici, ils articulent au niveau interne et encore inopérationnel. Donc, encore faut-il que les explications détaillées qu'il vient de nous donner puisse être concrètement matérialisé. Puis, par rapport à tout ce que vous venez de dire là, bon, moi j'ai seulement une série de questions, peut-être que je suis assez pressé pour me les poser, mais si je les ai bien compris, ils sont en train de nous décrire comment ça va être. Puis, mais, par rapport à ce que nous connaissons, il y a quelques années ici, on parlait encore des réformes au niveau de l'administration publique, on parlait de la réduction des effectifs, on parlait de gens qui n'étaient pas encore mécanisés, des gens qui devaient être mécanisés, et que à un certain moment, je sais que c'est vers 2012-2013 qu'il y avait des arrêtés du Premier ministre selon lesquels on ne devait pas encore procéder au recrutement ou bien aux nominations. Alors maintenant, quand ils lancent des offres à grande échelle qu'ils doivent recruter au niveau interne, il y a des questions que nous pouvons encore nous poser. Pas de quels critères ces recrutements vont se faire. Ils vont d'abord recruter pour soumettre ces agents recrutés à un test, puis les soumettre encore à une formation adaptée par rapport au ministère dans lequel ils vont aller prester, ou on va seulement les recruter et les affecter. Ça, c'est l'une des questions que je suis en train de poser et j'espère que au cours du débat on pourra avoir des réponses. Puis par rapport aux effectifs, dans beaucoup de ministères, dans beaucoup de bureaux, dans beaucoup d'offices de la fonction publique, il y a des gens qui travaillent mais qui ne sont pas encore mécanisés. Et quand nous devons voir le système de notre administration, il y a un problème éculé, le problème de la retraite, le problème de la pension. Maintenant qu'ils passent au recrutement, ils ont d'abord trouvé déjà des solutions au problème de la retraite. Est-ce qu'ils ont déjà trouvé des solutions par rapport à la pléthore de nos frères qui prêtent sans être mécanisés? Est-ce qu'ils ont déjà trouvé des solutions à la bancarisation de tous les salariés qui prêtent déjà, ou on va encore ajouter le recrutement et il y aura encore des problèmes qui vont se poser? Ils vont recruter, ces gens-là doivent être payés, alors que ceux qui sont d'abord sur place n'ont pas convenablement droit à leur salaire. Moi, je crois que la nouvelle est vraiment satisfaisante. On a toujours décrié le manque d'efficacité de notre administration. C'est vrai qu'un pays à la grandeur du Congo ne peut pas seulement avoir le nombre de cadres qu'on nous présente là. Il faut encore plus. Mais en ayant autant d'argent, il faut construire là où ils doivent aller travailler. Il faut le mécaniser, il faut le payer, il faut rendre l'administration viable. Donc moi je trouve qu'il y a toute une série de problèmes, de préalables qu'on doit repenser avant de procéder à ce recrutement. Sinon, si ces préalables ne sont pas pensés, alors on risque de donner raison à ces observateurs pessimistes qui craignent que cette décision vienne préjudicier les agents et cadres déjà en poste et favoriser le clientélisme. Je vous remercie.
Merci beaucoup, Franck. Vous avez assez d'inquiétude hein, par rapport à la mécanisation. Il y a fait une décision qui est suspendue, si on peut utiliser le terme. Le secrétaire général pourra nous donner de plus de précisions, pas les recrutements ni les nominations. Alors, ceux qui seront recrutés, est-ce qu'il y a un critère? Il y aura des tests? Seront-ils formés? Comment concilier tout cela avec la question de la mise en retraite des autres? Autant de questions, hein, si ça peut aboutir. Merci beaucoup, Franck. Nous avons Maître Omar ici à Kinshasa. Maître Omar, vous êtes avec nous. Bonjour.
Bonjour, très cher Pierre Lamigi, et bon début de semaine à tous les auditeurs ainsi qu'à les invités.
Merci, on vous écoute.
Merci beaucoup, Pierrot, pour le verbe que vous m'avez dit. Je salue premièrement cette réforme initiée par le gouvernement. C'est vrai qu'il y a des écueils qui faillent être élagués, mais lorsque les bonnes choses sont faites, il faut les féliciter, notamment pour l'École nationale d'administration qui a organisé un bon concours, et aussi pour la réforme de la loi sur les statuts qui date de 1981. Mais par rapport au sujet du jour, comme l'a dit mon prédécesseur, je pense que la réforme est bonne, mais ce que l'on veut plus, c'est la mise en œuvre. Et moi, j'ai comme l'impression qu'on se limite plus dans cette réforme au niveau des moyens humains. En théorie de l'administration, il est démontré que l'administration publique a trois sortes de moyens. Les moyens humains, les moyens matériels, ainsi que les moyens juridiques. Sans cela, l'administration ne peut pas être efficace. En ces jours, Pierrot, notre administration publique, qui est composée de fonctionnaires qu'on appelle fonctionnaires de l'État, souffre et pose beaucoup de problèmes. L'idée de réformer le recrutement interne est une bonne chose, mais je lutte fort que ça puisse être à la forme ou à la base du changement, n'est-ce pas, de ce que nous vivons aujourd'hui. Prenez par exemple, comme l'a dit M. Franck Devienne, l'administration ne se limite pas au cadre, mais à une base qui travaille. Allez voir aujourd'hui dans quelle situation les fonctionnaires travail. Allez voir quel matériel ils utilisent pour rendre efficace la gestion de l'État. Parce que les pouvoirs publics décident, c'est l'administration publique qui est censée exécuter. Et lorsque elle, qui est le noyau, n'a pas assez d'efficacité, l'État ne marchera jamais. Aujourd'hui, on parle du recrutement, ce qui est pourtant une bonne chose. Mais est-ce qu'on pense d'abord à ce qui existe déjà? Il y a des gens qui ont été nommés depuis 2010, et juste à ces jours, ils sont ni mécanisés, ni payés. Pensez-vous que le simple fait de recruter au niveau interne pourrait être la base des changements? Moi, je pense que si on ne traite pas les problèmes qui sont à la base, on ne fera absolument rien. À part la mécanisation, ceux qui travaillent déjà, ceux qui se gagnent comme salaire. Moi, je pense dans la vie, il faut savoir faire la part des choses entre la priorité et l'accessoire. Ce qui est prioritaire, Pierrot, c'est d'abord réévaluer et arranger, améliorer ce qui existe déjà. Et après, on pourra, n'est-ce pas, procéder à une réforme au niveau des cadres. Comment voulez-vous arranger le haut si le bas et la racine n'est pas forte? Alors voilà pour finir, pour ne pas prendre votre temps en otage, je propose ce qui suit. Il faut doter l'administration publique des moyens, d'abord humains, c'est-à-dire renforcer ce qui existe en bien payant les fonctionnaires et recruter sur base des critères qui sont établis par l'ENA. Deuxièmement, les moyens humains ne suffisent pas. On peut bien faire le recrutement, mais s'il n'y a pas de matériel approprié, l'action administrative sera inefficace. Il faut doter à ces fonctionnaires des moyens matériels humains pour concrétiser les décisions publiques. Et enfin, des moyens juridiques. Là, je fais allusion aux lois. Je félicite le gouvernement pour la réforme des lois qui est au niveau du Parlement, mais je demande à ceux que l'on ne puisse pas se limiter dans ces pays à mettre en place des réformes des lois et qu'on ne sache pas l'appliquer. Parce que nous sommes experts, nous, Congolais, à mettre en place des lois qui, jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas appliquer. Je passe à mon avis, Pierrot, la somme de ces petites solutions, tant soit peu, arranger les choses.
Merci beaucoup, Maître Omar. Vous avez beaucoup insisté sur, j'arrête beaucoup plus les critères par rapport aux critères des recrutements établis par l'ENA. On pourra voir avec le secrétaire général, hein, les gens qui seront recrutés à l'interne, quels sont les critères, parce que Franck s'inquiétait aussi par rapport à ça, mais vous estimez que la réforme doit aussi prendre en compte la base en remontant jusqu'au haut de la pyramide. Merci beaucoup, Maître Omar. Jean-Pierre, vous êtes Jean-Pierre Issiro, je crois bien, c'est dans la province de la Chopo, c'est ça, Jean-Pierre?
Non, Jean-Pierre Emi, j'appelle depuis Isiro, c'est le chef-lieu de la province du Haut-Ouélé.
Ah, c'est Haut-Ouélé, voilà, merci beaucoup pour la précision. Bon, il faudra encore qu'on s'habitue avec la nouvelle cartographie. Alors, vous avez suivi les uns et les autres, votre point de vue, Jean-Pierre?
Oui, d'abord, je félicite l'idée, puisque depuis beaucoup de temps, nous sommes en train de décrier les rajeunissements de notre administration et aussi l'efficacité de cette administration, mais nous devons dire qu'ici, on est en train de chercher à faire tout cela, c'est pour qu'on puisse avoir une bonne qualité, puisque l'administration constitue vraiment les poumons du fonctionnement d'un pays, et chez nous, nous avons remarqué que depuis beaucoup de temps, d'abord, les gens, ils partent au travail, pas pour travailler, il y a beaucoup de gens qui sont là, mais qui ne travaillent pas. Bon, est-ce qu'il faut seulement voir les postes qui sont là jusque-là pour ajouter les personnes qui manquent ou les rajeunir, ou il faut même réformer cette administration-là, puisqu'il y a des personnes qu'on engage pour rien. Si vous partez à l'administration aujourd'hui, vous allez voir, il y a des personnes qui sont en train de chômer, ils sont là depuis le matin, ils n'ont rien fait, ou ils ont peut-être fait des petites choses, ils sont en train de perdre le temps. Est-ce qu'il faut qu'on continue à avoir ce nombre de personnes qu'on a aujourd'hui, mais qui ne fait rien, ou on doit aussi penser à voir qu'est-ce qu'il faut faire pour réformer d'abord cette administration-là. Et aussi, de l'autre côté, les personnes qui ont servi l'État congolais, pendant plus de 40 ans, vous allez trouver des vieux papas qui, malgré qu'on ne les payait pas pendant des guerres ou pendant des moments difficiles, ils ont toujours servi cette nation. Et aujourd'hui, il y a des faits qui, on les donne leur passion, on lui demande de laisser le travail pour qu'ils puissent donner à l'autre, mais on ne lui donne rien en contrepartie. Ils font des démarches et des démarches pour voir ce qu'ils peuvent faire et jusqu'à ce qu'ils meurent sans pour autant qu'ils puissent avoir ne plus que quelque chose pour laisser à sa femme veuve ou à vos enfants qu'il va laisser. Je pense qu'on doit vraiment beaucoup penser à voir qu'est-ce qu'il faut faire pour remercier ceux qui ont jusqu'à servi le Congo, mais aussi les jeunes. Puisque les tranches d'âge qu'on a données, nous avons aujourd'hui des jeunes qui ont terminé dans l'administration. Ils ont fait les sciences politiques, ils ont fait les droits, ils ont fait l'agronomie, ils vont prendre. Mais ce sont des jeunes qui sont là en train de chômer. Et ils ont de l'énergie et l'envie de servir la nation. Avec tous les signes de patriotisme qu'ils ont, ils veulent servir la nation. Mais vous allez voir les tests qui vont se faire, ce sera tellement de formalités, et pour seulement permettre à ce que certaines personnes qu'on a déjà prévues puissent avoir des travails, mais pas pour que ceux qui devaient prendre les travails puissent prendre les travails. Je pense qu'avant qu'on puisse même faire les tests, on doit d'abord faire des mises à niveau pour que tout le monde puisse avoir au moins un même niveau. Et après ces mises à niveau, qu'on peut faire un test pour que même sur les plans géographiques ou géopolitiques, on puisse avoir tout le monde, que toute la partie de l'histoire soit représentée dans tout cela. Mais je pense qu'à présent, tout cela, nous pouvons peut-être arriver à avoir une administration de qualité qui pourra servir notre pays.
Merci beaucoup, Jean-Pierre. Vous êtes à Isiro, le chef de la province des Haut-Ouélé. Merci pour toutes ces précisions. Vous êtes revenu sur la préoccupation de beaucoup de personnes par rapport à la mise à la retraite de ceux qui sont en train déjà de travailler. Mais là, quand on fait un recrutement en interne, vous l'avez dit, et qu'il y a aussi de jeunes qui sont capables de travailler, n'est-il pas nécessaire d'ouvrir l'appel d'offres pour ceux-là aussi qui sont à l'extérieur de l'administration qui pouvaient être recrutés? Merci. Bosongo Albert, vous êtes ici à Kinshasa, gardez la ligne, on va revenir à vous. 081-890-73, le numéro d'appel pour intervenir en direct.
À la découverte du Congo dans ses différentes facettes, c'est possible. Les histoires inédites d'expériences des Congolais, mais aussi de tous ceux qui, venant d'ailleurs, ont choisi le Congo comme seconde patrie. Un focus sur des métiers anciens et nouveaux déclinés à l'infini, fruit de la débrouille qui tient tout le secteur informel. Oui, c'est Zigzag. Rejoignez sans plus tarder l'équipe de Zigzag sur Radio Capi, chaque samedi à partir de 15h, heure de Kinshasa. Et parcourons ensemble les coins et recoins du Congo profond. Zigzag, c'est Radio Capi en balade.
Voilà, nous allons commencer avec vous, monsieur Tudjino Maginga, secrétaire général à la fonction publique, par rapport aux préoccupations sur les recrutements lui-même. Il y a d'abord, si on peut regrouper tout ce que les trois intervenants ont évoqué, les problèmes d'abord des effectifs qu'il fallait maîtriser, les problèmes de non-recrutement ou nomination, mais maintenant qu'on est recruté à l'interne. Pourriez-vous expliquer un peu par rapport à la décision du ministre, d'une manière concrète, comment on va procéder d'abord dans la mise en œuvre de cette réforme, pour d'abord par rapport au recrutement et par rapport pour maintenant aux fonctionnalités de ces comment on appelle ça, ces structures standards à compétences horizontales. Cela veut dire d'abord le recrutement, parce qu'il y a un problème qui se pose sur le pléthore, la retraite, comment ça va se passer en interne, et puis l'opérationnalisation du fonctionnement de ces structures. Et monsieur Jean-Serge Vicoro, lui, il va préparer les réponses par rapport aux préoccupations des auditeurs sur la réforme elle-même de la base au sommet et tous les problèmes qui se sont posés. Comment ça va vous, secrétaire général?
Ok, merci beaucoup pour l'intérêt de tous les auditeurs sur la réforme. Eh bien, il y a un diagnostic qui a été fait. Mais c'est vrai que devant ce diagnostic, il fallait améliorer les conditions sociales des fonctionnaires, mais le préalable était de connaître ces fonctionnaires sont combien. Et il fallait aussi le recensement. Et malheureusement, compte tenu du fait que les moyens financiers n'ont pas suivi, ce recensement a pris beaucoup plus de temps. Mm-hmm. Le recensement commençait en 2005, exactement le 10 mars 2005, mais ne s'est clôturé qu'en 2013. Et là aussi, il faut saluer l'action du gouvernement, parce que les deux premières phases du recensement se sont réalisées avec le financement des partenaires. C'est ce qui a fait le temps que ça a pris. Mais depuis 2012, avec le nouveau gouvernement qui a pris la mesure de la responsabilité et a financé la dernière phase du recensement avec les quatre provinces qui restaient, alors les anciennes provinces. Et bien sûr, ces données sont en train d'être analysées pour que tout soit d'entrée compilé pour que, en fait, on puisse savoir qui sont les vrais fonctionnaires, parce qu'il faut nécessairement confronter les données de l'agent au regard des actes qui ont été pris. Donc, d'où le travail de la conformité, donc de l'examen de la conformité, donc du recensement. Et ce travail, je pense que le rapport final, avait déjà été publié par ce recensement, monsieur le ministre de la fonction publique, Jean-Claude Kibala. Et c'est vrai, le recrutement, si on peut dire, au regard de l'article 7 du statut, le recrutement se fait sur concours. Mais l'exception, c'est simplement que donc, le recrutement sur titre conditionné par le fait que lorsque le nombre d'emplois proposés, de postes proposés, est supérieur au nombre des candidats, alors on recourt au recrutement sur titre. C'était une exception, mais qui est devenue depuis des décennies la règle. Et maintenant, lorsque l'on recrute de cette manière, mais on ne se rend plus compte de la qualité. De la qualité. Et on recrute au grade d'attaché de bureau de première classe un D6. On recrute au grade d'attaché de bureau de deuxième 4, bon, un PP 4. C'est irrationnel. Mais les actes étant déjà pris, bien sûr, c'est ce qui a gonflé l'administration, parce que le recrutement s'est fait en désordre. Mais aujourd'hui, le gouvernement a pris la décision d'arrêter le recrutement d'une manière pour que donc on a toujours qualifié de clientélisme, parce que on ne voit pas en réalité qui a recruté. Les ministères envoient les listes, mais on ne sait pas sur base de quels critères, sur base de quels postes organiques. Voilà, et aujourd'hui, je vais vous dire que le dernier recensement, le recrutement sur concours, a eu lieu en 1985 au Conseil législatif, l'ex-Conseil législatif. Et au niveau des inspecteurs des finances, l'avant-dernier recrutement avait eu lieu en 1988 et le dernier recrutement, c'était en 1992. Ça, c'est le recrutement sur concours. Mais depuis, je peux vous dire que même le statut de 1993, pendant tout ce temps, on ne recrute que Donc, même pas sur le titre, parce que lorsque on recrute sur le titre un licencié, on le recrute au garde attaché du bureau de deuxième classe, un médecin, un ingénieur civil au garde attaché du bureau de première classe. Donc, compte tenu de ces désordres, il fallait nécessairement remettre de l'ordre. Et je félicite M. Jean-Pierre Aïssino, parce qu'il a fait un constat. Les agents sont au travail. Qu'est-ce qu'ils font? Mais on passe 8 heures au travail et non 8 heures de travail. Mais c'est ce qu'il faut nécessairement repenser. Donc, et les structures et les méthodes de travail. Parce qu'après celui qui fait 8 heures au travail, c'est qu'en réalité, il n'a pas la réelle connaissance du travail qu'il doit faire. Et ce qu'il aurait dû faire, c'est que ces agents devaient passer par une formation. Et c'est ce que, aujourd'hui, le gouvernement est en train de faire, le recrutement interne. Mais il ne s'agit pas de nouvelles unités qu'on va recruter au grade de commandement. Non. Un recrutement interne, c'est que ce sont des agents de carrière de service public de l'État qui ont un grade. Donc, qui ont un grade, soit d'attaché de bureau de deux, ou d'attaché de bureau de première, et qui ont le grade de chef de bureau, chef de division ou directeur, ou qui sont commissionnés en ce qui concerne les chefs de bureau et les chefs de division et les directeurs. Ils sont déjà rémunérés. Donc, il n'y aura pas un impact notable donc sur le budget des rémunérations, parce que ces cadres sont déjà des fonctionnaires et sont rémunérés.
Mais un peu rapidement, quand on doit les recruter pour animer ces structures, est-ce qu'on a besoin de les remplacer par rapport au poste qu'ils occupaient? C'est pourquoi j'ai posé la question sur l'opérationnalisation de ces recrutements, le poste qu'ils doivent occuper par rapport aux charges qu'ils avaient avant, un peu rapidement.
Bon, aujourd'hui, ce sont de nouvelles structures. Ce sont de nouvelles structures qui ont été impulsées par la réforme. Je voudrais vous dire que la réforme dans son comité de pilotage est pilotée par son excellence Monsieur le Premier ministre, qui pilote politiquement la réforme, et le ministre de la fonction publique, lui, en pilote donc pratiquement assure donc le pilotage technique. Donc c'est que il n'y a pas de décision individuelle prise par le ministre de la fonction publique. Le ministre de la fonction publique applique les décisions donc, du gouvernement. Donc, c'est que dans la mise en œuvre, mais ces personnes qui vont pouvoir concourir, mais avant qu'ils ne puissent concourir, ils occupent un poste. Mais ce sont de nouvelles structures, c'est qu'il y a de nouveaux emplois qui se sont créés avec la DAF, la DRH, donc la nouvelle DEP et la DMTIC. Donc ce sont de nouveaux emplois. Mm-hmm. Comme le statut dit que la promotion a pour objet de pourvoir à un emploi vacant, un emploi organique vacant, mais il y a des emplois vacants avec le nouveau cadre organique standard, de nouveaux emplois qui se créent, mais au lieu de pouvoir ouvrir le recrutement extérieur, on le fait donc sur le plan donc interne. Et c'est vrai, il y a une question qui se pose en anticipant là. Et ceux qui disent, écoutez, ceux qui occupent les fonctions au niveau des directions des services généraux, qu'est-ce qu'ils deviennent? Mais d'abord, un agent de l'État, lorsqu'il est recruté, est-ce que principalement, il a une affectation? Non. Dès qu'on le recrute, mais après, on affecte. Ces cadres garderont leur carrière. Et lorsqu'on va continuer la rationalisation, ils vont occuper certains. Ils ont des compétences qu'ils pourront donc faire valoir dans les structures spécifiques et aussi dans les nouvelles provinces. On a besoin d'énormément de cadres.
Voilà, on revient à vous, Jean-Serge Bicoro. Si je peux répondre sur ce que disait tout à l'heure Monsieur Tudjounou Maguinga par rapport aux nouvelles provinces, est-ce qu'il y a là sujet en inquiétude pour le cadre de l'administration par rapport à tout ça? Est-ce que le travail a été fait en amont pour faire comprendre aux gens qu'est-ce qu'ils vont faire? Quand on dit déjà qu'il y a des nouvelles provinces, c'est qu'il y a des gens qui, dans cette réforme, dans ces processus, ils peuvent perdre leurs emplois ici dans les administrations publiques, que ce soit soit Kinshasa ou bien ailleurs, un peu rapidement avant de compléter ce que vous vouliez par rapport à ce que disait le secrétaire général.
Oui, je crois que la création des nouvelles provinces ne doit pas être perçue comme, comme une occasion de perte d'emplois, mais d'ailleurs, ça devrait être perçu comme des opportunités parce que les emplois vont devoir se démultiplier et au niveau national pour certaines structures. Là, voilà la preuve, on crée des nouvelles structures, quatre nouvelles structures, on cherche à les combler par les hommes qu'il faut, à la place qu'il faut, mais également parce que nous passons de 11 à 26 provinces, donc il y a 15 nouvelles provinces qui se créent, et donc autant d'opportunités, parce que ces provinces, au regard de la Constitution, doivent devoir s'organiser autour d'une administration provinciale et locale. Et c'est encore l'occasion de saluer l'engagement du gouvernement, parce que la loi portant organisation et fonctionnement des services publics du pouvoir central, des provinces et des ETD, venait d'être votée au niveau du Parlement, et donc on donne aux provinces l'opportunité de créer leurs propres administrations, et donc on aura besoin de personnes, des ressources humaines compétentes pour pouvoir les animer. Aussi, vous savez que la décentralisation a été choisie tout simplement parce que c'est une opportunité d'aller vers le développement. Et donc, il faudrait cerner effectivement pour ces nouvelles opportunités quels sont les hommes qu'il faut pour pouvoir les animer. Donc moi, je crois qu'il n'y a pas vraiment de raison de craindre de perdre, mais plutôt de voir comment se repositionner par rapport à toutes ces opportunités. Alors, il a été, j'ai remarqué que les trois intervenants, ils ont eu vraiment l'avantage, et je les en félicite, de faire un bon diagnostic, mais que le gouvernement a déjà fait lui-même. Parce que la réforme en cours est une réforme qui découle d'un diagnostic général de notre administration publique. Et ensuite, la vision, c'est que nous voulons disposer d'une administration publique d'excellence pour améliorer les services publics de l'État. Vous savez que notre État a fait le choix d'aller vers son émergence à l'horizon 2030, et la question était de savoir est-ce que l'administration actuelle dont nous disposons est capable de l'y conduire. Et la réponse était effectivement non. Et le gouvernement s'est doté d'un plan d'action pour pouvoir effectivement renforcer cette administration. Et le premier plan d'action, c'est effectivement ce que notre ami M. Franck a relevé, c'était la revue ou la rationalisation des structures de pilotage de la réforme. Et là, le secrétaire général est revenu sur la nécessité du comité de pilotage qui fixe et lève les options sur la réforme. Et le ministre de la fonction publique, en sa qualité de gestionnaire de ressources humaines, en assure l'implémentation technique. Il y a les aspects juridiques. Nous avons un statut de 1981 et donc qui était totalement inadapté au contexte actuel. La décentralisation dont nous venons de parler date de février 2006 et donc il fallait disposer d'un cadre juridique qui organise notre administration et qui l'aide à fonctionner correctement pour pouvoir répondre à ça. Mais aussi l'organisation même de l'administration, la manière dont elle est gérée, elle s'organise, ça pose des problèmes. Et donc la création des structures standards dont il est question relève de cette analyse qui démontrait que notre administration, dans la manière de s'organiser, de fonctionner, était totalement inadaptée à cette ambition de l'émergence. Et donc les quatre directions, par exemple, relèvent de cette stratégie. Il y a cette question qui a été évoquée notamment par tous nos amis, la question notamment de l'agénissement, mais également de formation et de renforcement des capacités. Et donc, mais aussi la retraite, qui est une question totalement essentielle, parce qu'il y a des fonctionnaires qui ont servi l'État avec indemnisation, mais ils conçoivent la retraite comme la mort. Et là, le gouvernement vient de finaliser un projet portant création d'une caisse nationale de sécurité sociale qui va devoir répondre de manière durable et efficace aux questions de préoccupation au niveau de la sécurité sociale. Et enfin, il y a cette question de la décentralisation. Mais je voudrais peut-être, avant de rapidement compléter la liste de nos amis,
il y a beaucoup d'auditeurs.
Oui, monsieur Omar, il fait l'analyse qu'il faut s'attarder sur les aspects humains, matériels, juridiques. Et je voudrais compléter sa liste en disant que le gouvernement a même passé plus loin parce qu'il ajoute des aspects techniques et des aspects financiers. Ce qui justifie effectivement le besoin d'avoir une DAS pour bien gérer les finances publiques, mais aussi une dette pour qu'une gestion de l'administration soit cadrée dans un élan de programmation et de planification.
Nous avons Bosongo Albert, il est agent à l'administration publique, c'est ce qui nous a été écrit par la réalisation. Monsieur Bosongo, vous êtes avec nous, bonjour.
Bonjour.
On vous écoute, monsieur.
Merci beaucoup pour m'avoir accordé la parole. Je vais intervenir ici à deux niveaux. D'abord, au niveau des droits. Les structures dont les questions qu'on veut créer sont créées par une note postulée par un arrêté du ministre de la fonction publique. Alors que les structures existantes que ce soit les directions de services généraux, des équipes qui existent aujourd'hui, sont des structures qui ont été payées et leurs cas d'organisme ont été payés par une loi, par une ordonnance. Donc, dans le droit, il y a le principe des actes contraires. Un arrêté ne peut pas abroger une loi. Ça, c'est un premier aspect. Aujourd'hui, si nous prenons la direction du service généraux qui sera remplacée par deux directions, les ressources humaines, la direction administrative et financière. Parlons des effectifs. Les directions qui existent aujourd'hui de services généraux regorgent plus de 200 effectifs. Mais dans leur nouvelle structure, ils ont prévu, par exemple, faire pour les études que 18 personnes. Alors que ces directions-là, aujourd'hui, comptent plus de 200 effectifs. Au service généraux, c'est 26 personnes. Alors qu'ils comptent plus de 200 effectifs. Où iront ces effectifs-là, dont ils ne sont pas retenus dans les cas des organismes actuels, dans les postes prévus? Ça, c'est un aspect. Le deuxième aspect, le statut actuel qui est en vigueur dit que la promotion, dans l'article 66 et 67, la promotion se fait après 3 ans d'ancienneté si on est côté bon, et qu'il y a un poste organique vacant et budgétisé. Là, alors, on ne prévoit pas qu'il faut avoir un niveau de diplôme de bac 5, on ne prévoit pas l'âge. Alors, nous ne comprenons pas comment le ministre de la Fonction publique, qui se réveille un matin, change les statuts actuels par un arrêté. Parce que c'est ça, je suis le point de droit. Si lui commence d'abord par changer ces structures-là par des ordonnances, qui fait adopter au Parlement et que le président de la République le formule, alors les nouvelles structures peuvent être mises en place. Ça, c'est un assainissement de voix. On est en train de le faire. C'est pourquoi les fonctionnaires sont très mécontents. Ils ont manifesté depuis que la note est sortie. Chaque jour, aujourd'hui, la fonction publique est cassée par les policiers. Pourquoi? C'est parce qu'il y a une malaise au sein de l'administration. Tout le monde est dehors. Hein? Et voilà. Maintenant, on est en train de dénoncer les agents par des lettres et ainsi de suite, et des sanctions et ainsi de suite. On ne comprend plus rien.
Merci beaucoup,
le voilà. A besoin qu'on puisse résorber le chômage. Mais aujourd'hui, on veut mettre les gens en chômage, donc un assainissement camouflé.
Merci beaucoup, Monsieur Bossongo. Vous avez insisté, vous l'avez dit, d'abord il y a la question de droit. Faudrait-il, est-ce que c'est possible aujourd'hui qu'un arrêté puisse abroger une ordonnance loi? Il fallait d'abord que sur les plans juridiques, que les organes qui sont créés puissent respecter la loi. Et puis vous avez aussi évoqué les cas des effectifs. Il faudrait prendre ce qui est prévu aujourd'hui par ces structures. Il y a beaucoup de gens qui vont se retrouver en assainissement camouflé. C'est ça votre inquiétude, ce qui a conduit bien sûr aujourd'hui le fonctionnaire à être mécontent et à manifester. Merci beaucoup, Monsieur Albert Bossongo. On aura des explications tout à l'heure avec l'inspecteur général. Madame Wabiwa Chantal, vous êtes aussi à l'administration publique ici à Kinshasa. Bonjour, madame.
Bonjour, monsieur les journalistes.
On vous écoute.
Oui, moi je m'inscris en faux par rapport à ça. La réforme c'est bien, mais la manière dont on a prévu les choses, ça ne se fait pas comme ça. Donc, il faut la réforme, soi-disant la réforme, transformer les agents, même les chefs hiérarchiques. En tout cas, je m'inscris en faux. C'est une manière de chasser les agents, de les mettre en retraite. Et même aujourd'hui, au moment où je vous parle, les agents sont menacés par la police. Alors, je ne veux pas ça. Ils sont menacés par la police. Ce n'est pas comme ça que ça devait se faire. Mm-hmm. Un agent qui travaille pendant 20 ans, il n'a même pas de grade. Il est âgé 1, aujourd'hui, il se réveille, non? Vous n'êtes plus sur la liste. Comment il va se prendre sur les journalistes? Ça ne va pas. Ce n'est pas comme ça que les choses doivent se passer. Parce que le gouvernement a signé un accord avec les syndicalistes. Je ne sais pas si on a associé les syndicalistes dans cette réforme. Parce qu'on dit que les syndicalistes doivent accompagner la réforme. Est-ce qu'ils ont fait cette réforme? Ils ont établi cette réforme avec les syndicalistes. Les agents vont souffrir. par rapport à ce qui s'est fait.
Merci beaucoup, madame. Vous avez beaucoup insisté sur la sous-information. Est-ce que les syndicalistes ont-ils été associés à cette réforme? Il y a eu une sous-information, les gens n'ont pas été informés. Alors, beaucoup de gens ont peur de perdre effectivement leur emploi parce que les nouvelles structures ne vont pas prendre en compte le nombre de gens qui travaillaient au niveau des directions des services généraux. Merci beaucoup, madame. Professeur Ignace Ndala, vous êtes à Colusi, dans la province de Lualaba. Bonjour, professeur.
Bonjour, JR. Bonjour, invité. Je commence par féliciter l'initiative, car sans bonne administration, vous savez que cela pose de sérieux problèmes. On a vu ce que l'administration belge a réussi à faire. Je crois que c'est un bon modèle. Et je voudrais aussi rappeler que le défi reste grand du fait que nous allons maintenant d'une administration en développement vers une administration de développement. Pendant qu'on est en train d'arranger l'administration, le défi aussi c'est celui de faire que cette administration joue un grand rôle dans le développement de notre pays. Alors j'ai une préoccupation. Je me dis, lorsque on fait un recrutement interne, il y a ceux-là bien sûr qui prendront des postes supérieurs à ceux qu'ils étaient en train d'occuper avant. Cela va poser déjà le problème de rémunération. Est-ce qu'il y a eu des dispositions prises déjà pour que cet écart de salaire ne puisse pas poser des problèmes quand on se retrouve dans une situation où on va demander aux gens de recevoir d'abord les salaires anciens pour qu'on puisse améliorer le salaire? Il va se poser alors un double problème d'amélioration de salaire. Une autre préoccupation, c'est de savoir, vous savez, l'administration dans notre pays, à face pour aller du face, il y a une politisation à outrance. Les postes seront en train de se distribuer comme d'habitude. Tel parti politique va demander qu'on lui accorde tel poste et tel autre dans ce même cadre. Est-ce qu'il y a aujourd'hui des mécanismes qui vont faire qu'on puisse éviter ce genre de situation? En fait, je voudrais terminer par dire, on sait que les amis ont dit avant, pour bien retraiter, il faut bien traiter les fonctionnaires. Merci.
Merci beaucoup, professeur Ignace Ndala. Le problème du poste des supérieurs qui seront occupés avec la rémunération, la politisation de postes, y a-t-il des mécanismes pour échapper à cela? Raphaël Osango, vous regardez la ligne. Il y a beaucoup d'agents de l'État public qui appellent parce que le sujet il est très intéressant, mais nous allons permettre d'abord à nos deux invités de réagir. On va revenir à vous. Peut-être le temps de chercher comment conclure alors que nous sommes bousculés par le temps. 081-890-6031.
Parole aux auditeurs.
Nous commençons avec vous, Monsieur Tudjian Moumadinga, secrétaire général. Là, on est bousculé par les temps, mais des questions techniques et pratiques ont été posées par les agents de l'administration publique. Il y a d'abord le problème juridique. On considère qu'il y a les arrêtés, les notes filaires du ministre violent la loi, parce que ces directions qui existaient, c'était par rapport à une ordonnance loi et qu'un arrêté ne peut pas abroger. Qui vont devenir tous ceux qui travaillent dans ces services. Un peu rapidement, ce sont les deux préoccupations. Mais Mme Wabi Wafliso estime que les fonctionnaires n'ont pas été associés à la réflexion, ni les syndicalistes, un peu plus rapidement.
Bon, merci beaucoup pour toutes ces questions. Il faudra que M. Mossongo, ou même tous les fonctionnaires, qu'ils puissent lire, ne fût-ce que le statut qui les gère, parce que beaucoup de fonctionnaires ne connaissent pas le statut à tous les niveaux, un grand nombre. Et M. Mossongo parle de l'ordonnance et de l'arrêté. Mais je voudrais bien lui dire que la réforme de 1982, nous y avons participé, avait arrêté en 1982 l'effectif des agents des cahiers de services publics de l'État, tous les ministères confondus. C'est 93 000 700 et quelques. Donc 93 000, on peut dire 94 000 à redire. Mais aujourd'hui, nous sommes à combien? Nous sommes à près de 500 000. Et ce sont les cadres organiques qui avaient été couverts par l'ordonnance 82-027. Mais aujourd'hui, nous avons cet effectif. C'est sur base de quoi? Mais il faut dire que on a recruté, sans tenir compte des effectifs, tous ceux qui ont recruté depuis 1981, sans tenir compte des postes organiques. Et en fait, l'effectif devait s'arrêter à 93 000, 93 000,
plus plafonné à 94 000. Bon, mais plus à l'époque les branches spécialisées, ça faisait le total de 102 000 agents en 1982. Mais aujourd'hui, nous sommes à combien? Ça, donc, est quintuplé. Donc, c'est que lorsque déjà la gestion, les effectifs déclarés sont de l'ordre de 500 000, presque 600 000, mais c'est sur le bas de quel texte? Mais aujourd'hui, on voudrait bien sûr rationaliser. Mais il faudra qu'ils lisent l'arrêté du ministre. L'arrêté du ministre porte agrément provisoire. Donc, agrément provisoire. En 1998, il y a un ministre, un ancien ministre de la fonction publique, qui avait refixé les cadres organiques. Et c'était fait par arrêté d'agrément provisoire. Donc, c'est que les cadres organiques de 1982 sont dépassés, sont obsolètes. Et l'évolution qu'on connaît aujourd'hui dans les cadres organiques, ça sont fait, donc c'est fait par des arrêtés d'agrément.
Voilà. Mais il y a l'inquiétude par rapport aux gens qui vont, les postes qui seront pourvus et ceux qui travaillent déjà dans ces directions qui seront fondues. C'est ça la peur des gens sur la perte de l'emploi.
Non, mais écoutez, ce que je dis aujourd'hui, on le fait d'une manière rationnelle, progressivement, pas comme en 83. Je vais dire aux auditeurs qu'en 1983, le commissaire d'État de l'époque avait pris la circulaire 100, donc 700. Et cette circulaire excluait tous les éligibles à la retraite de la mise en place. Mais qu'ils viennent, je peux leur donner cette circulaire. Ça excluait tous les éligibles à la retraite donc de la mise en place. Mais aujourd'hui, nous avons un processus de mise à la retraite accompagné pour qu'on n'arrive plus à la situation qu'on a connue en 2000.
Et ça, ça veut dire que les gens n'ont pas à s'inquiéter pour ces
mais bien sûr qu'il y a des assurances dans le projet de la réforme, il y a une garantie qui est offerte. Et ceux qui sont, donc qui ne seront pas qui ne pourront pas participer au concours parce que en fait les conditions sont là. Pourquoi on a fixé l'âge 35 ans, 40 ans et 40 ans et 45 ans, 50 ans. Mais je veux vous dire que moi, je suis devenu directeur à 40 ans. Et j'ai passé le concours pour devenir secrétaire général dans un ministère, j'avais 50 ans. Donc je suis devenu directeur à 40 ans et secrétaire général à 50 ans. Donc, c'est que il faut dire que ce n'est pas exagéré. Mais on voudrait que, lorsqu'on va mettre en place les structures, ceux qui ont le temps de les former, le temps de les équiper, mais ça va prendre du temps pour préparer justement donc, la mise en œuvre de toutes ces lois. Et pour qu'ils puissent préparer la prise en charge donc des actions de réforme. Et puis, madame a parlé du recrutement. Mais je voudrais bien si c'était madame Wabiwa. Mais qu'elle nous dise comment elle a été recrutée. Aujourd'hui, le processus pour mettre tout le monde, pour asseoir le principe d'équité, c'est le concours. Et celui qui organise le concours, eh bien, ce n'est pas une personne, ce ne sont pas des partis politiques. Non. Le ministère de la fonction publique au regard de l'article 11.
Là, c'est pour répondre au professeur Ndala qui s'inquiétait sur la politisation, mais il a posé la question sur la budgétisation. Quand quelqu'un passe à un poste supérieur, faudrait-il qu'il reste encore une touche le salaire du poste qu'il avait avant? Est-ce que tout cela est prévu en termes de budgétisation un peu rapidement?
Oui, bien sûr qu'il était prévu. D'ailleurs, nous sommes en retard sur notre chronogramme. En fait, les structures standards devaient entrer en vigueur depuis le 1er janvier 2015. Donc, c'est que nous sommes en retard et il y a une budgétisation. Donc, c'est prévu, tous ces cadres donc, seront pris en place, seront pris en charge par
voilà, les gens dans le nouvel. Du coup, placer un mot rapidement, il y a encore un agent de la France publique qui vient d'appeler en dernière minute pour placer aussi un mot par rapport à ça. Rapidement, pour compléter.
Oui, juste par rapport à madame Wabiwa qui s'inquiète de l'implication des fonctionnaires. fonctionnaires.
Les fonctionnaires.
Je crois que la réforme actuelle, la stratégie du gouvernement est vraiment est menée de manière participative. Donc avant d'en arriver à la fixation, le gouvernement a d'abord conduit des études organisées de manière participative, ensuite des ateliers, des validations et même des présentations et d'élaboration des
nouvelles. Et pourtant, ils sont là dehors en train de refuser.
Non,
ils rejettent apparemment.
Non, je crois que c'est peut-être, vous voulez exprimer autre chose que
ce voilà. On revient pour conclure rapidement. Raphaël Osango, vous êtes ici à Kinshasa. Et là, vous n'avez que 40 secondes rapidement par rapport à votre préoccupation pour nous permettre de conclure. On vous écoute rapidement.
Oui, merci beaucoup, monsieur le journaliste, de m'avoir accordé la parole. Moi, je me demande, je vous ai suivi très bien, je me demande pourquoi monsieur le secrétaire général à la fonction publique, qui a fait un avis d'échec, ne démissionne pas, parce qu'il a condamné de manière dont on a rectifié déjà la fonction publique. Et pourquoi lui ne démissionne pas? L'actuel ministre de la fonction publique, il est à la fonction publique depuis de 3 ans, et il connaît tout ce qu'il connaît. Pourquoi il ne démissionne pas? Il cherche tout simplement à tromper le peuple congolais.
Alors,
ils vont être certains.
Voilà.
Ils ont pris l'argent de la Banque mondiale, soit à 17 millions. Maintenant, pour justifier cet argent, ils
cherchent à sacrifier des fonctionnaires.
Beaucoup de questions-là, ils n'arrivent pas à répondre. Où est-ce qu'ils vont mettre le directeur de l'OJ?
Voilà, dommage qu'on ne sait pas aller plus loin, monsieur Tudjizou Maginga. On va terminer avec vous. Il y en a même qui pensent qu'il y a eu un échec dans la réforme, autant mieux pour vous et pour le ministre des démissionnés. Voilà, en 30 secondes pour conclure cet échange.
Bon, écoutez, ce n'est que normal. Lorsque on réforme, et la réforme parfois, il y a des gens qui...
Il y a des victimes.
Bien sûr. Bon, des victimes, ben, on dit que, bien sûr, lorsqu'on réforme, il y a toujours des résistances.
Mmh.
Et ça, nous pouvons mettre dans le panier des résistances. Donc, à la réforme, pour toutes les réformes, même dans le monde, en France et dans tous les pays, mais l'objectif, c'est que cette réforme, c'est une réforme porteuse.
Merci. On pourra se retrouver prochainement pour voir comment tout cela va évoluer. Vous estimez que s'il y a des mécontentements, c'est dans le cadre de la résistance à la réforme. Merci à toute l'équipe qui nous a aidé à produire cette émission. On retrouve Parole aux auditeurs sur www.radiographie.net. Les prochains rendez-vous, c'est demain à 11h30, heure de Kinshasa. Au revoir.